Quotidien avec Hélène Denis.
Bon jeudi 12 juin 2025, on est ensemble jusqu'à 11h et bonjour Mathieu.
Bonjour à vous.
Vous allez bien?
Oui, excusez.
Pourquoi vous riez?
Parce que j'étais à bout de souffle juste au moment où vous m'avez interpellé. J'allais vous souhaiter bonne mi-juin.
Oui, c'est vrai, hein? Presque 12 juin, là, on est pas mal dedans. Alors aujourd'hui, nous aurons des nouvelles du Canada francophone avec notre chroniqueur Julien Caillouette, qui est rédacteur en chef chez Franco-Presse. Et il va nous parler, entre autres, Julien, du Festival franco-ontarien qui célèbre son 50e anniversaire cette année. Le festival s'ouvre aujourd'hui au parc Majors Hill. Vous connaissez sans doute, oui. Yvan, que vous avez habité, vous, à Ottawa. Moi aussi, d'ailleurs.
J'ai déjà participé. Oui. J'ai déjà assisté.
Même chose ici. Et donc, comme je le disais, le festival commence aujourd'hui avec trois talents masculins en vedette, Freds, Carbone et Jolie. Vraiment, l'affiche est très belle. Le festival va durer 3 jours. On y reviendra avec Julien Caillouette en dernière portion d'émission. Il y aura aussi une capsule linguistique où Monique va nous dire si lettres majuscules et lettres capitales sont des synonymes et quelle est la bonne expression aussi, là, parce qu'il y en a peut-être une qui est fautive. On verra tout ça avec Monique. Monique qui est au bout du fil. Bonjour Monique.
Bonjour Hélène, bonjour Yvan, bonjour bon. Mathieu, bonjour chers auditeurs.
Bonjour, bonjour, bonjour là, bonjour. En plus, en plus de la chronique... votre capsule linguistique, vous allez nous faire découvrir une nouvelle émotion.
Oui.
Wow.
C'est vraiment, c'est un article qui a vraiment piqué ma curiosité. Alors imaginez qu'il y a des recherches qui sont consacrées à cette émotion que l'on appelle, Hélène, Kamamuta. C'est un mot qui vient du sanskrit et qui signifierait être transporté par l'amour.
Wow.
Mais les chercheurs vont l'associer à être ému. En anglais, on dirait to be touched.
Ah. À ne pas confondre avec Hakuna Matata.
Peut-être.
Qui veut dire pas de problème.
Ben. Pas tout à fait. Non, on ressent quelque chose, on a des frissons, on a peut-être les larmes qui nous viennent aux yeux. En fait, moi j'ai appelé ça une douce émotion qui n'est pas du tout négative.
Non, bien on a hâte d'en savoir plus. Merci Monique.
Oui.
La chronique d'Yvan Deslauriers qui est en studio. Yvan, bonjour.
Bonjour Hélène.
À une semaine de votre anniversaire.
Je vous dirai plus rien, vous.
Bien là, vous êtes mieux de tout me dire parce que moi, j'aime bien tout savoir.
Mm-hmm.
Alors, Yvan, vous allez partager avec nous une chronique de Patrick Lagacé.
Oui, c'est plus une chronique, justement, une chronique qui fait du bien.
Oui.
Puis peut-être qu'à certains moments donnés, on va sentir une émotion, peut-être.
L'émotion Kamamuta?
Peut-être. Moi, en la lisant, j'en ai vécu. Mais
oui.
Tout ça pour vous dire que ça raconte sa nuit, la nuit tout récente qu'il a passée à faire le tour de l'île de nuit. J'ai déjà fait ça et c'est vrai. Ce qu'il raconte, c'est pas mal ça.
Il me semble que si j'avais à choisir parmi tous les tours offerts dans le cadre du tour de l'île, ce serait celui-là qui me tenterait le plus.
Il est très différent de tous les autres. Il est très festif, effectivement.
Bon, bien, on a hâte d'entendre votre lecture. Et puis, je ne sais pas si vous allez au spectacle de Comment de bord et de Bon enfant. C'est demain au MTELUS. Mathieu est très, très déçu parce qu'il a une autre activité au menu qui est programmée depuis longtemps. Mais pour vous faire plaisir, pour vous consoler, Mathieu, et tous ceux et celles qui n'y seront pas et qui aiment, entre autres, Comment de bord, voici Papier Foil.
We'll be right back. J'ai comme une balle sur le pote légal. Pendant que tes chums y mettent du beau dommage. Ça parle d'un gars d'une émission qui change en animal. Ça se demande des affaires fondamentales. Je sais pas c'est quoi, moi, les temps utopia. Je m'en rappelle pas tant que ça de l'année du verbe. Je suis ben trop dans le jus, je te laisse faire tes stages. Pendant que mes chums y mettent des choses.
Papier foil de commande au bord.
À la une du Devoir d'aujourd'hui, Michael Sebia quitte Hydro pour Carney. Il deviendra greffier du conseil privé et secrétaire du cabinet du gouvernement du Canada. Il part après moins de 2 ans. Le PDG d'Hydro-Québec, Michael Sebia, va libérer son poste à la tête de la Société d'État le 4 juillet prochain. Homme de confiance de François Legault, il se joindra le mois prochain à l'équipe du premier ministre fédéral Mark Carney à titre de greffier du conseil privé et de secrétaire du cabinet du gouvernement du Canada. Dans un courriel adressé aux employés de la Société d'État que le Devoir s'est procuré, M. Sebia affirme que cette décision n'a pas été facile à prendre. Il souligne les défis sans précédent auxquels fait face le Canada, les turbulences économiques, les changements profonds dans la relation avec les États-Unis et l'importance primordiale de réaliser des projets majeurs pour expliquer son départ. C'est à la lumière de ces circonstances exceptionnelles que j'ai accepté la demande du premier ministre Carney de me joindre au gouvernement pour relever ces défis de front, écrit-il dans le courriel. Bien que ce ne soit pas facile de partir, je suis heureux de vous dire que je le fais avec la pleine confiance qu'Hydro-Québec est sur une bonne voie et entre bonnes mains. Une photo du sud-ouest, du sud-est de la France sous la fumée canadienne, d'épaisses fumées qui proviennent d'intenses feux de forêt au Canada, ont recouvert Annecy dans le sud-est de la France mercredi et une importante partie de l'Hexagone est touchée par ce phénomène depuis le week-end dernier. Quelques 225 feux sont actuellement actifs dans le centre et l'ouest du Canada et plus de 30 000 personnes ont déjà dû être évacuées. Imaginez, on sent la fumée. jusqu'en Europe, en France particulièrement. Fred de Fortin, parti pour replanter le décor, le musicien revient au Franco pour les 20 ans de la sortie de son troisième album. Belle entrevue de Sylvain Cormier avec Fred Fortin pour parler de son excellent album Planter le décor. Et puis, environnement, un projet éolien menace les caribous de Charlevoix. Le méga-projet des neiges empiète sur l'habitat essentiel de ces cervidés au seuil de l'extinction, selon le BAP, qui est le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Le BAP constate que cette volonté des promoteurs représente une menace directe à la survie de cette population de caribous qui compte aujourd'hui à peine 34 bêtes, toutes maintenues en captivité dans un enclos de 0,4 km² pour éviter leur extinction. Le projet éolien des neiges menace les derniers caribous de Charlevoix, constate le BAP. Les scientifiques gouvernementaux abondent d'ailleurs en ce sens, mais les promoteurs refusent de dire s'ils vont accepter de retirer les éoliennes des milieux naturels nécessaires à la survie de ces cervidés au seuil de l'extinction que Québec et Ottawa ont promis de protéger. Le projet éolien des neiges, secteur Charlevoix, fait partie d'un méga-projet en trois phases qui est développé par Boralex Énergir Hydro-Québec. Malgré les avis répétés des experts sur les effets néfastes de la construction d'éoliennes et de chemins dans l'air de répartition des caribous, les entreprises ont toujours rejeté l'idée de l'éviter en faisant valoir que cette mesure de protection rendrait le projet non viable. À la une, Journal de Montréal, triste histoire qui remonte à 30 ans déjà, meurtre de Jolay, 9 ans, déjà 30 ans, trois décennies après qu'un prédateur s'est attaqué à sa fillette, Donna Sénécal, ne veut pas qu'on oublie la petite victime, drame terrible, Jolay, qui avait été agressée sexuellement et tuée. Ça s'est passé il y a 30 ans, le 12 juin 1995, Jolay Campeau, à une avant pour toujours. Pardon, ces mots sont ceux de la juge qui a condamné son meurtrier. Hier, Donna Sénécal, la mère de la petite Jolay, a soufflé 68 bougies. Aujourd'hui, elle célèbre un autre anniversaire beaucoup plus triste, celui du décès de sa fille unique, 30 ans plus tôt. Le 12 juin 1995, la petite a eu le malheur de croiser le chemin d'Éric Daudelin en se rendant chez une copine dans le quartier d'Auteuil à Laval. L'homme sortait de prison pour agression sexuelle. Lorsqu'il l'a aperçue, il en a fait sa proie. Pour souligner le 30e anniversaire de ce drame, Donna Sénécal ne veut pas célébrer la mort de Jolay, mais plutôt sa vie, avec un grand V. Et à la une de la presse, on parle du départ de Michael Sebia. Départ surprise, le grand patron d'Hydro-Québec quitte ses fonctions pour intégrer la garde rapprochée du premier ministre du Canada, Mark Carney. Alors voilà, et puis on annonce aussi à la une la chronique du goût du mât. Riche et célèbre, que penser de la série documentaire sur l'homme d'affaires Luc Poirier? Non, Luc Poirier n'est pas matérialiste ni milliardaire, écrit-il Hugo Dumas avec beaucoup de sarcasme. Plusieurs ultra-riches adhèrent maintenant à la tendance mondiale du quiet luxury, soit le luxe discret dont les vêtements élégants et très chers n'affichent pas de logo criard ni le nom du célèbre couturier qui les dessine. Ces gens friqués ne ressentent pas le besoin d'étaler leur fortune sur le rabat d'un sac à main griffé ou sur les semelles rouges d'une paire d'escarpins. Le luxe discret est chic, classe, de bon goût et sobre. Le promoteur immobilier Luc Poirier représente exactement le contraire de ce mouvement de pudeur financière. Alors, il parle de la mini-série documentaire « Luc, le milliardaire ?» point d'interrogation qui sort aujourd'hui sur la plateforme Crave.
Ville étrangère, ok, tu étais
Ariane Moffatt qui chantait Nuit magique.
Oui, c'est le titre d'une chronique ou à peu près de Patrick Lagacé, Nuit magique à Montréal, publiée le 7 juin dernier.
J'imagine Ariane Moffatt avec elle a deux filles, je pense.
Non, des garçons.
Deux garçons. Je l'imagine faire ça. D'aller...
Chanter Nuit magique?
Non, non, oui, évidemment.
Parce faire un tour de nuit avec la famille.
Oui, oui, oui. Je l'imagine, sans jeu de mots. Et. J'imagine aussi les vélos, qu'est-ce qu'il y aurait de l'air. Et Patrick Lagacé nous raconte un peu tout ça. Moi, j'ai eu le plaisir de participer à ce tour de nuit à quelques reprises.
Ah oui?
Oui. Et c'est vraiment très, très, très festif parce que les gens qui y participent le sont. Alors, il raconte, en marchant vers la crèmerie ce soir-là, après avoir déposé nos vélos à la maison, ma blonde m'a dit « Tu souriais comme un enfant. » Ce soir-là, c'était le vendredi 30 mai, celui du tour la nuit, le traditionnel tour nocturne du vendredi, le week-end du tour de l'île. Je souriais comme un enfant. On ne se voit jamais sourire, mais je sais que je souris en repensant à ce tour la nuit. Je vous raconte. Nous étions donc 17 000 au départ sur le boulevard Rosemont, tout le long du parc Maisonneuve. Probablement plus que 17 000 en comptant les inévitables petits snoreaux qui se sont faufilés le long du parcours sans payer leur dossard.
Ah, il y en a qui font ça?
Oui. Oui, sûrement. Si vous haïssez le vélo, si vous haïssez les vélos, si vous haïssez les maudits bicycles, vous avez sans doute déjà cessé de lire cette chronique ou de l'écouter. Je vous vois vous éloigner, me tourner le dos et je dis « Revenez ».
Ça fera pas mal.
Ce n'est pas une chronique sur le vélo. C'est une chronique sur... Ah, oh shit, sur quoi au fait? Tenez, c'est une chronique sur le désir d'être ensemble. Alors, on part lentement au début, tout le monde a le pied à terre, on essaie de rouler, mais il y a trop de monde. Et puis, le troupeau se disperse, devient plus fluide, et ça part. Là, boum! Ça pédale dans les rues qui soudainement nous appartiennent. Tu roules rue Beaubien, 30e avenue dans Rosemont. Le soleil vient de se coucher. Il y a une bonne humeur dans l'air. Même si tout le monde roule à des vitesses différentes, sur des vélos différents, dans des conditions physiques différentes, il y a ce sentiment qui transpire du troupeau. Tous dans la même gang. Tous, un bref instant, dans une communauté, en chair, en os et en aluminium, une communauté réelle, pas virtuelle. Pas de « like » qui n'existe que via un bouton sur un écran. Les « j'aime » dans ce tour la nuit se distribuaient de visu. Ça se félicitait, ça se faisait des pouces en l'air entre parfaits étrangers. J'ai roulé le cœur léger devant l'immense créativité de certains cyclistes à perruques colorées. D'autres étaient déguisés ou avaient déguisé leur vélo. Je pense à ce type qui avait patenté une sorte d'arc lumineux qui reliait l'avant et l'arrière de sa monture. Si vous avez une chance d'aller voir la photo...
Mais c'est un arc-en-ciel.
C'est vraiment un arc-en-ciel, oui. Il pense aussi à ce DJ ambulant qui avait monté une console dans le panier de son vélo et qui roulait joyeusement tonitruant parmi le troupeau.
Ah.
À ses enfants trimballés dans le coffre du tricycle parental, déguisés eux aussi. À ce monsieur qui pédalait sur ce qu'on ne saurait appeler un vélo, pensez exerciceur elliptique transformé en vélo. Boulevard Viau, boulevard Lacordaire, la nuit s'est installée. Nous sommes entrés dans les quartiers de Montréal-Nord, des coins que je n'avais jamais vus. Tout le long de ces quartiers, des familles étaient massées le long du parcours pour encourager les cyclistes, comme si c'était le Tour de France, comme si nous étions des athlètes de pointe à la poursuite d'un record quelconque. Un happening, des effluves de barbecue, des haut-parleurs sur les balcons, des multiplexes gris, des enfants sur le trottoir qui tapaient dans les mains des cyclistes. Pour ces enfants, ados, parents, grands-parents issus de l'immigration, entre guillemets, comme on dit parfois, vêtus d'habits qu'on ne saurait nommer, pour eux sur les balcons et sur les trottoirs, comme pour nous à vélo, c'était l'occasion d'être de la fête, de faire partie d'une communauté, de la gang. À ma gauche a surgi une petite brigade de jeunes cyclistes traînant des drapeaux du Québec et pédalant au son de la chanson « Le but » de Loco Locas. Ils m'ont dépassé dans une des rues de Montréal-Nord où, je le devine, les nouveaux arrivants qui habitent ces multiplexes n'ont qu'une vague idée de ce que représente ici l'espoir d'un pays pour ces jeunes qui pédalaient en scandant « Vive le Québec!
» Je ne sais pas si ça devient cacophonique, le DJ ambulant d'un bord, les autres qui chantent le but.
Ah oui, oui, oui.
OK, c'est pas un tour silencieux.
Ça fait partie de la fête. Oui, oui, oui. Même effervescence chez les résidents d'un quartier plus aisé, composé de bungalows. Peut-être encore dans Montréal-Nord, peut-être dans Anjou, j'ai oublié. Mais là encore, des couples, des familles qui s'étaient fait une fête de la fermeture des rues et du passage du troupeau roulant et disparate. Ça nous saluait un verre de vin à la main. Certains avaient installé un haut-parleur qui crachait de la musique. Ma blonde me suivait avec une amie. Il n'y avait plus de peloton. Que des grappes de cyclistes, rois et reines de la nuit. Même le parc industriel que nous avons traversé s'est révélé d'une beauté rugueuse, plus beau que le jour en char. J'ai pensé, maudit que j'aime cette ville, malgré tous ses défauts en forme de cône orange, maudit que j'aime vivre ici, dans ce Québec un peu fossilisé mais si pacifié, malgré tout. Boulevard Langelier, rue du Ménil, quand j'ai vu 40e avenue, j'ai su que nous approchions du fil d'arrivée. Petite parenthèse, le tour la nuit, c'est à peu près une vingtaine de kilomètres.
Okay. Qui commence au coucher du soleil.
Oui, 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 c'est pour les lumières, pour la festivité. Rue Viau, dernière ligne droite, la musique du parc Maisonneuve nous guidait vers la fin du parcours. Donc, de retour à la maison, en marchant vers la crèmerie, ma blonde m'a dit ce soir-là que je souriais comme un enfant tout le long du parcours du tour la nuit. On ne se voit jamais sourire, mais c'est vrai que je souris comme un adulte, généralement. Appelons ça un sourire prudent. Avant le dodo, fourbu, mes tendons d'Achille me rappelant mes 53 ans d'usure, j'ai regardé les photos prises de ma blonde et moi au parc Maisonneuve après les 21 kilomètres de ce tour de nuit. Sur une de ces photos, c'est vrai, il y a dans mon sourire l'abandon de mes 7 ans. Et normalement, cette chronique aurait dû finir là-dessus. C'est une pas pire chute, je trouve. Il y a dans mon sourire l'abandon de mes sept ans.
Oui, belle phrase.
Mais avant de commencer cette chronique, j'avais envoyé un texto à Jean-François Rault, PDG de Vélo-Québec, pour lui demander quelques détails sur l'événement. Et je venais de finir d'écrire cette chronique quand M. Rault m'a répondu à une de mes questions en m'envoyant ce témoignage reçu à Vélo-Québec d'un participant autour de la nuit. Mon observation la plus forte, c'est les sourires. Rares sont les événements qui accomplissent autant pour autant de gens en si peu de temps. J'étais pas fou. J'étais pas le seul à sourire ce vendredi-là dans l'est de Montréal, à sourire comme un enfant. Merci aux riverains du parcours qui ont fait un party de ce tour la nuit. Merci aux bénévoles qui montaient la garde le long du dit parcours en nous encourageant. Je ne sais pas ce qui vous motive, mais sans vous, ce ne serait pas possible. Et merci à Vélo-Québec pour cette nuit magique à Montréal, pour cette fête réelle dans un monde de plus en plus virtuel. Mais surtout pour les sourires. Et j'ose le dire, merci pour ce bonheur-là.
Hey, il est en état de grâce, Patrick Lagacé.
Oui, et puis je ne sais pas quand est-ce qu'il dort, lui, mais, mais j'adore le lire, en général.
Oui, il n'est jamais ennuyant. Qu'on soit d'accord ou pas avec lui.
Oui, ouais. Et souvent, on peut être d'accord ou pas.
Ouais. Donc, ça nous donne envie de pratiquer, de faire ce tour de nuit, ne serait-ce que pour retrouver son sourire d'enfant.
Oui, ouais. De 7 ans ou de 8.
Est-ce que vous vous souvenez, vous, de la dernière fois où vous avez souri comme un enfant?
Hey, non.
Non?
Peut-être l'année passée.
Ah oui, l'année passée?
Oui, ben ça va être dans une de mes brèves, vous allez voir.
OK. Oui. Moi, je me souviens que j'avais pas 7 ans comme Patrick Lagacé, mais 5 ans, lors du premier spectacle que j'ai vu du Cirque du Soleil à Légria. J'étais sortie de là, je me sentais comme une petite fille. J'avais été éblouie du début à la fin. Bon, alors, merci Yvan pour ce partage de cette chronique de M. Lagacé. Monique Kirouac sera avec nous pour nous parler d'une nouvelle émotion, Kama Muta. On a-tu hâte d'en savoir davantage? Restez là.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. Picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's by my excitations, but not good, good vibrations, but not good. Excitations, but not good, good vibrations, but not good. Excitations.
vibrations of heaven and weather. Gotta keep those market vibrations.
Beach Boys, excuse-moi.
Non, c'est correct, parce que je pensais que vous vouliez me laisser la parole vu que vous avez allumé mon micro.
Ben, allez-y.
Good Vibrations par The Beach Boys. Et pourquoi on vous fait jouer ça, vous l'avez deviné, hein? Brian Wilson nous a quittés. L'immense Brian Wilson, éminence grise des Beach Boys, comme on l'écrit dans la presse, s'est éteint hier à l'âge de 82 ans. Un génie de la mélodie que Paul McCartney admirait, pour ne pas dire adulait. Et on vous offrait cette chanson tirée de l'album Smiley Smile, paru en 1967. Monique Kirouac nous fait découvrir une nouvelle émotion.
Oui, ben, j'ai eu une petite émotion, Hélène, en entendant cette chanson, justement, parce que ça me rappelle mon premier grand amour.
Pas vrai.
Oui, imaginez.
Comment s'appelait-il?
Que, il s'appelait Gilles René.
Gilles René.
Oui.
Ah, vous alliez donner son nom de famille en plus?
Non, okay. Non, j'ai pas donné son nom de famille. Ah. Mais imaginez sur le 45 tours que ma copine avait récupéré parce qu'on avait fait un party, comme on
oui,
disait
oui.
À l'époque. C'était écrit « Gilles aime Monique ».
Oh, c'est trop chou.
Oui, c'est trop chou. Alors voilà une émotion qui nous fait frissonner un petit peu.
Absolument. Alors on pense à Gilles René, c'est un prénom assez bizarre. Hein? On ne sait jamais peut-être qu'il y a quelqu'un qui le connaît qui va l'appeler puis dire « On a entendu parler de toi à Canalem ».
Oui, c'est ça. Alors je vous... Donc, un article sous la plume d'Héloïse Rambert pour la revue Epsilon a retenu mon attention, comme vous l'avez mentionné. Parce qu'on parle d'une nouvelle émotion. Alors, Alan Fix, c'est un professeur et chercheur, anthropologue à l'Université de Californie à Los Angeles. Alors, il a proposé à ses étudiants d'essayer de comprendre pourquoi Thomas pleurait. Voilà comment est né le Kamamuta, il y a quelques années, d'une conversation anodine entre chercheurs alors qu'ils n'avaient pas la tête au travail. Thomas a raconté qu'il lui arrivait de regarder des films avec sa fille de 7 ans et d'avoir la larme à l'œil. Le Thomas en question, ben, c'est Thomas Schubert, qui est un éminent professeur de psychologie sociale à l'Université d'Oslo. Alors, une émotion intense, les yeux humides, mais pas de tristesse. C'est cette état d'âme que nous avons déjà ressentie, tous et chacun, j'en suis convaincue, qui pique alors la curiosité d'Alan Fiske, qui s'intéresse depuis toujours aux émotions, en particulier aux émotions sociales. Très vite, une hypothèse se dessine pour le chercheur et ses collaborateurs. La clé de cette émotion se trouve dans la sensation de connexion à l'autre ou à quelque chose de plus grand que soi. si cette émotion et ces manifestations surgissent, ce serait parce que le sujet ressent tout à coup une forte relation dite de partage communautaire. C'est pas seulement le degré de connexion, d'amour, de compassion ou d'appartenance que vous avez ressenti qui importe, c'est qu'il s'est intensifié. D'où ce nom teinté de mysticisme du sanskrit Kamamuta, c'est-à-dire être transporté par l'amour. Une vaste enquête est alors lancée dans la foulée par Alan Fisk et ses collègues du désormais bien nommé Kamamuta Lab, et ce, dans 19 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Portugal, l'Inde, la Chine et le Japon, pour tracer les contours de cette nouvelle émotion. Alors, les questions qu'on se pose, Hélène, qu'est-ce qui la provoque? Quelles sont précisément ses manifestations physiques? S'agit-il d'un état d'âme distinct des 6 émotions de base? Alors, vous demandez peut-être quelles sont ces 6 émotions de base. Ben, c'est la joie, tristesse, dégoût, peur, colère et surprise qui sont étudiées depuis des dizaines d'années, y compris pour leur intérêt évolutif. La peur qui mobilise le corps et l'esprit afin de faire face à un danger. La libération d'hormones liées à la joie pour favoriser la reproduction d'une situation. Mais qu'en est-il des émotions plus complexes? Dans les années 1960, de nouvelles bases de travail ont été posées sur les émotions. On a alors eu des discussions sur l'être ému. On se disait qu'il y avait vraiment un phénomène très subtil, difficile à maîtriser. Cela rejoint les travaux menés par Julian Deona du Centre interfacultaire en sciences affectives à Genève, l'un des pionniers de l'étude de l'émotion sobrement appelée « being moved », être ému ou être touché en français, qui publie en 2011 sur le sujet. Quand Alan Fisk et ses collègues ont commencé à travailler sur la notion de Kamamuta, M. Deone a pensé qu'ils étaient en train de révéler quelque chose que tout le monde connaît implicitement, mais qui n'avait jamais été explicité. J'ai été émue, ben, tout le monde en effet connaît cette expérience à la fois plaisante et bouleversante. C'est l'arme positive. Il y a aujourd'hui une sorte de consensus pour dire que c'est une émotion plutôt belle et puissante qui donne un peu envie de pleurer, mais pas pour des raisons négatives. Alan Fisk et son équipe ont réussi à épingler ses caractéristiques physiques. Soumis à cette émotion, il est fort probable que nous ayons la chair de poule et que nous ressentions une chaleur dans la poitrine, une envie de pleurer ou une sensation de légèreté. Mais ce qui nous met dans cet état, bon, semble-t-il que ça fait quand même un peu débat. Comment expliquer que ces contextes aussi différents nous fassent ressentir la même chose? La théorie du partage communautaire défendue par le Kamamuta Lab, bon, ne convainc pas tout le monde. Une des thèses, c'est la présence d'une valeur positive importante pour nous lorsqu'elle est tout à coup mise en évidence dans un contexte, entre autres, négatif. Par exemple, quelqu'un se montre généreux avec nous alors que tout va mal et qu'on ne s'y attend pas. Ouais. Ça nous émeut, hein? Ça nous touche, ça va de soi. Ou lorsque la valeur positive est mise en scène et nous saute aux yeux, comme lors d'une cérémonie de mariage. À en croire la littérature, nous sommes nombreux à écraser notre larme dans des situations qui ont trait aux relations sociales, que ce soit une naissance, un mariage, des retrouvailles d'amis dont nous avons été longtemps séparés. Alan Fisk a sélectionné pour mener ses expérimentations des vidéos qui tracent les contours du déclencheur de l'émotion, surtout pour une communauté. Par exemple, il a utilisé des discours puissants de Barack Obama sur fond de musique qui prend aux tripes carrément. D'où aussi l'importance de ces émotions qui nous transcendent. Elles sont communicatives et touchent le groupe entier. Et semble-t-il que quand elles émergent, elles nous transforment momentanément. Elles alimentent notre disponibilité à nous rapprocher d'autrui, à nous comporter de manière plus généreuse. Oh, on en a besoin beaucoup ces temps-ci. Et à être ouvert aux autres et à essayer de les rendre plus proches les uns des autres. C'est une vraie onde de propagation et probablement l'outil d'adaptation le plus puissant que nous ayons. Le Kamamuta serait l'un des ciments de notre organisation sociale. Être ému, ça n'a pas l'air de désigner une émotion en particulier, mais le fait de ressentir une émotion en général. L'avenir nous dira si le terme Kamamuta s'imposera, si nous affirmerons un jour nous sentir en Kamamuta ou même Kamamuté, le plus naturellement du monde. Alors, nul doute que cela attestera alors de la solidité du concept. Donc, ça reste à prouver, mais ça nous fait plaisir, je crois.
Ah oui. Moi, je suis en train de penser à qu'est-ce qui me camamute. Je ne sais pas si c'est un mot qui peut exister. Les bébés.
Oui.
Certains paysages.
Ah, mon Dieu.
Des spectacles en arrivant.
Ah, mon Dieu, oui.
Un plat, un mets qu'on mange et on l'évite.
En communauté.
On a le goût de pleurer. Oui. Bien, merci, Monique. Vous vouliez parler, cher Yvan?
Non, ça va aller. Okay. Je vais intégrer ça dans mes brèves.
Est-ce que vous êtes en train de vivre le Kamamuta?
Non, mais je pense à des événements où je l'ai probablement vécu.
J'ai entendu cette voix tout dernièrement. Elle s'appelle Camille Yambe. La voici dans la chanson « Plastique ».
Que tu me passerais une cigarette. J'avoue, je fume pas, mais je peux le faire. Pour toi, c'est mal, j'irai sûrement en enfer. Je sais plus quoi faire pour être la plus stylée. Ce soir, j'ai enfilé une peau en plastique. Pour éviter de tout casser encore une fois. Tu reconnais la silhouette. Je change de forme vite, vite pour ressembler à qui. Un jour blonde, un jour brune, un jour populaire. Un jour les traits de mon visage seront-ils symétriques. Je rêve de vivre, d'amour et de connaître moi. Ah, je vis la vie d'une autre, c'est dommage. D'amour et de quête-moi. Ah, je vis la vie d'une autre fille, c'est dommage. Ah, j'ai enfilé une peau en plastique.
plastique, Camille Yembe. Parlez-nous, Yvan, du grand défi Pierre Lavoie.
Oui, avec grand plaisir, parce que j'y ai participé l'année dernière, oui. Alors j'ai encore des beaux souvenirs.
Ça se passait à peu près à la même période?
Oui. Oui, oui. Sauf que l'année dernière, c'était du vendredi au dimanche. C'était la première fois que le Grand Défi se faisait de cette façon-là.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que ça se passait toutes les étapes étaient autour de la ville de Québec. On partait toujours de l'Université Laval et on revenait toujours à l'Université Laval.
Ah oui. Pourquoi?
C'est une très bonne question. Auparavant, c'était 1000 km à travers le Québec avec beaucoup de véhicules récréatifs pour chacune des équipes. Alors, au niveau de la pollution, ça allait vraiment à l'encontre de l'esprit du tour lui-même qui veut encourager les bonnes habitudes de vie. D'avoir une centaine de véhicules récréatifs pendant toute une fin de semaine.
Quelque chose d'un peu contradictoire.
Alors, ils ont inventé un autre grand défi Pierre Lavoie, ouais. Avec 13 parcours différents, comme les pétales d'une marguerite.
Oh.
Et on partait justement de l'Université Laval et on revenait à l'Université Laval. Ceux qui connaissent la région de Québec savent que l'Université Laval, c'est pas... près de l'eau.
Mm-hmm.
Alors, on commençait toujours par descendre, puis on finissait toujours par monter pour arriver à notre point de départ.
Et cette année, est-ce que c'est les mêmes scénarios?
C'est le même scénario. C'est pas nécessairement les mêmes étapes, mais c'est le même scénario. Ça commence ce soir, donc on est jeudi. Donc, c'est de jeudi à dimanche. Probablement qu'ils se sont aperçus qu'à un moment donné, on manquait de sommeil. Il y avait des étapes de nuit. J'ai fait une étape de nuit dans la Beauce. C'était nuit magique, là. Il y avait de ça. Cette année, c'est la nuit magique, ça va se passer. C'est samedi, le 14 juin. C'est de 1h à 3h. Ça se passe près des chutes Montmorency.
Ça vous tente?
J'aurais aimé ça faire ça. Ceci étant dit, pour faire... le lien avec la chronique de Monique de tantôt, le Kamamuta.
J'ai peur.
Je pense que je l'ai connu l'année dernière en franchissant le fil d'arrivée à la toute fin.
Oui.
Parce que je pédalais avec le souvenir de mon beau-frère Benoît, qui aimait autant le vélo que moi et qui aurait beaucoup aimé faire ce tour-là. Fait que j'avais Il était un peu grognon, Benoît.
Oui. Est-ce qu'il y avait de la tristesse qui vous habitait parce que votre beau-frère n'est plus?
Non. Il y avait vraiment une joie, une émotion quand, ensemble, parce que j'avais le capitaine Haddock accroché après mon maillot, parce que le capitaine Haddock, ça représentait Benoît.
Ah, le capitaine Haddock,
oui.
Sous forme de bijou?
C'est une petite figurine que j'avais accrochée sur mon maillot.
Ah, c'est touchant.
Alors, quand on a passé, j'ai dit « on ». Le fil d'arrivée. On était très contents.
Wow! Lettres majuscules et lettres capitales. Vous avez un petit quelque chose à nous dire là-dessus. 3 minutes pour vous, Monique.
Oui, merci. Alors, quand est-ce qu'il faut parler de lettres majuscules, quand de lettres capitales? Surtout à l'heure où les règles typographiques sont souvent négligées, notamment sur le web, ben il faut en redécouvrir peut-être, Hélène, les subtilités qui régissent l'usage de ces lettres que l'on croit interchangeables, mais qui ne le sont pas. Alors, on fait donc d'abord le point sur ces deux concepts et on va tenter de comprendre leurs fonctions précises dans la langue française. Alors, une lettre capitale désigne en typographie la forme pleine et majuscule d'une lettre. Ce sont les lettres que l'on utilise quand tout un mot ou un texte est écrit en majuscule, c'est-à-dire en haut de casse. Hein, quand on sur l'ordinateur, on tape, là, puis on met la fonction haut de casse.
Oui, oui.
On les trouve sur des affiches, dans des logos ou encore pour styliser un titre. Typographiquement, elles ont toutes la même hauteur. Elles sont donc plus rigides visuellement, mais utiles pour signifier l'importance ou l'officialité de contenu. Il faut savoir qu'historiquement, Hélène, les capitales remontent à l'Antiquité romaine. On trouvait des inscriptions gravées en lettres droites et symétriques sur la pierre déjà. Une lettre majuscule, c'est la forme agrandie d'une lettre minuscule, utilisée dans des cas bien précis, définie par les règles de grammaire. Contrairement à la capitale, elle ne s'utilise qu'en début de mot ou de phrase. Généralement, pour marquer une fonction syntaxique, début de phrase, nom propre, nom de lieu, prénom. Par exemple, dans la phrase « Marie vit à Longueuil », ben, les M et L sont des majuscules. Soulignons aussi qu'en français, la majuscule doit porter un accent si l'orthographe du mot l'exige. Ah. Par exemple, école, si on commence une phrase avec le mot école, ben E majuscule, accent aigu.
Ouais, ça s'est perdu, ça, malheureusement.
Ça s'est perdu, c'est vrai. Et justement, j'allais dire, cette règle est malheureusement souvent négligée, notamment dans les documents administratifs ou sur Internet.
Et pourtant, on les a, les touches, on les a, les caractères.
Exactement, c'est tellement facile. Alors, enfin, dans un texte, seule la première lettre du mot concerné est donc en majuscule. C'est là une des grandes différences avec la capitale qui peut concerner tout le mot.
Bon, parce que souvent, Monique, si je peux me permettre, oui. À la une du Journal de Montréal, souvent les titres sont écrits en lettres capitales. Il faut dire en lettres capitales parce que tout est écrit en gros caractères. Alors, si je dis en lettres capitales, je suis correcte, mais sinon, si je dis en lettres majuscules, je suis dans l'erreur.
Oui, la majuscule, c'est donc, comme on l'a dit, en début de mot ou un prénom. Ou... Alors, il faut retenir que les capitales ne doivent pas remplacer les majuscules dans un texte courant. Un paragraphe entièrement écrit en capitales est difficile à lire. C'est pourquoi on recommande de limiter leur usage à des contextes très spécifiques.
Il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux là, qui sont
dire,
allergiques.
Hélène, sur Internet, écrire en capitales...
En caplock!
C'est perçu comme crier.
Oui, quelqu'un qui est bien fâché.
Oui, on en connaît un comme ça,
oui,
qui n'arrête pas de faire des mots...
Avec plein de points d'exclamation.
Exactement. Ce qui peut nuire à la réception d'un message. Ah, c'est drôle ce que vous dites. Le point d'exclamation a pratiquement remplacé le point, Hélène.
Ah oui, à ce point-là.
J'ai entendu ça cette semaine. On n'utilise plus le point quand on communique par les réseaux sociaux. On utilise le point d'exclamation.
Oui, mais un point d'exclamation, ça veut dire, je ne sais pas, il y a quelque chose, il y a deux rues là-dedans.
Oui.
On dirait qu'on veut bien se faire comprendre, là. Alors, un point, ça peut être aussi perçu comme quelque chose d'un peu plate, là. Ça finit comme ça. Puis...
oui, mais quand même.
Oui, je sais, je sais. Mais ça dépend de notre interlocuteur ou notre interlocutrice, là. Quand on se connaît bien, on sait que la personne va comprendre notre langage, mais
exactement.
Sinon, ça
Donc,
peut être plus compliqué.
Je disais que écrire en capital, c'est perçu comme crier. Bien, ça peut nuire à la réception d'un message ou à la compréhension
ben
d'un
oui.
message. On retient donc que les majuscules s'emploient dans un contexte dans un cadre grammatical, tandis que les capitales relèvent d'un choix typographique ou visuel.
Ah, oh, on a tout compris grâce à vous, donc moi je vais retenir la phrase « Marie vit à Longueuil
». Mais vous pouvez remercier Jean-Sébastien.
Oui, c'est vrai.
C'est lui qui a porté à mon attention cette rubrique. Je l'en remercie chaleureusement.
Merci. Je suis certaine qu'il est à l'écoute et que ça lui fait plaisir, même si c'est quelqu'un d'absolument humble, ce Jean-Sébastien, la liberté. Allez-y donc avec une brève.
Oui.
Très chère.
Il y a plusieurs organismes, des organismes qui organisent des marches ou des activités pour financer des recherches. Ça, c'est le cas pour l'organisme, la sclérose latérale amyotrophique, la SLA. Et je vous fais part d'une marche qui va avoir lieu samedi 14 juin au parc Frédéric Bach. On arrive par le parvis Papineau. La marche commence à 13 heures et va se terminer vers 15 heures. Et c'est une maladie qui affecte quand même un certain nombre de personnes.
Maladie terrible.
Terrible. On vient de trouver un médicament qui ralentit la maladie.
Ouais.
Donc,
il y a un peu d'espoir.
Un peu d'espoir. Vous vous souvenez, à une époque, là, on se garochait des bols d'eau glacée sur la tête. Là. C'est aussi dans cet esprit-là.
Ça avait frappé fort, ça.
Oui.
Et Monique, c'est tout pour vous, je pense?
Ben, j'ai une petite brève, si vous voulez. Là.
Ah oui, sur une initiative originale.
Oui.
Alors, allons-y donc avec une petite minute pour vous.
un nouveau-né, un arbre. Alors, imaginez que jusqu'au 27 juillet, la ville de Boucherville souligne l'arrivée d'un nouvel enfant sur son territoire en offrant un arbre à sa famille. Les arbres ornementaux offerts sont rustiques et peu sensibles aux insectes et maladies. Ils sont livrés directement à la porte et offerts dans un pot. Cette tradition de la municipalité a permis depuis 2010 de planter 208 arbres pour léguer un environnement plus vert aux prochaines générations. Les familles doivent bien sûr s'engager à le planter et en prendre soin, grand soin. Le programme s'adresse aux citoyens qui ont adopté un enfant ou donné naissance à un enfant en 2023 ou après.
Belle idée. Et le 12 juin, J'achète un produit québécois voit le jour. Ça me donne le goût de vous parler de cette initiative. La littérature québécoise a le 12 août. Les vins d'ici ont le 12 septembre. Et voici que l'achat local a désormais droit, lui aussi, à sa propre journée. On est le 12 juin aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez acheter de québécois?
Oh, moi, des fraises, des champignons.
Ah oui, des asperges.
Oui, oui, oui.
Mais moi, c'est déjà fait. C'est un spectacle. Je vais voir Pierre Lavoie ce soir.
Pierre Lavoie, c'est l'année prochaine.
Pierre Lapointe, ce soir.
Oui, Pierre Lapointe, qui donne toujours un excellent spectacle, qui est au TNM dans le cadre des Franco.
Oui, c'est ça.
Les Franco qui commencent demain, mais lui, il commence aujourd'hui. Il est toujours avant-gardiste. Merci beaucoup, Monique. Merci beaucoup, Yvan. On se retrouve la semaine prochaine.
Au plaisir.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.
Les Champs-Élysées de Joe Dassin.
Et c'est l'heure de prendre des nouvelles du Canada francophone en compagnie de Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
Julien, les animateurs culturels se demandent comment concilier identité francophone et diversité culturelle à l'école.
On a parlé à quelques-uns d'entre eux. Je me suis mis plus ici. Ça n'existait pas dans mon temps au Québec, là, mais dans les écoles du
dans
Canada
mon
français,
temps.
Il y a... Oui, c'est ça. Il y avait des... en ce moment, il y a des ce qu'on appelle des animateurs culturels. C'est des employés des conseils scolaires qui ont la mission d'organiser des activités pour rappeler aux jeunes pourquoi ils parlent français dans une mère anglophone, puis pourquoi c'est... Il faut en être fier, puis pourquoi on le célèbre à certaines occasions. Mais il n'y a pas juste ça, là. On y organise aussi des pièces de théâtre, des petites tournées, des activités culturelles. On a parlé des animateurs culturels qui remarquent que les activités changent tranquillement. On inclut de plus en plus la diversité. On y reviendra, c'est normal dans ce qui se passe, avec ce qui se passe. Mais les activités qui soulignent la culture des nouveaux arrivants commencent à prendre plus de place que celles des cultures existantes, trouvent certains. Par exemple, il donne l'exemple du mois de l'histoire des Noirs qui constate qu'il est plus célébré que la journée des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. Et aussi, dans un rapport qui a été publié en Saskatchewan, on indique que le basketball a remplacé le curling comme une des activités parascolaires. Il y a quand même d'autres animateurs culturels qui rappellent que, ben oui, les écoles accueillent de plus en plus d'immigrants, de gens issus de la diversité, mais il faut qu'ils se sentent chez eux aussi si on veut qu'ils s'intègrent dans la communauté franco-ontarienne. Donc, il faut leur présenter des choses qui les concernent, des choses qui les intéressent. Ça reste important de leur enseigner la culture locale, de leur expliquer pourquoi on célèbre la francophonie comme on le fait. Puis souvent, ben, ça les encourage à participer. Là, il y a un des personnes à qui on a parlé qui dit que lui, il n'y a jamais personne qui a refusé de s'embarquer dans la culture quand on lui expliquait la situation.
Quand on comprend les choses, c'est plus motivant. Protestation contre les propositions de changement dans la réglementation d'utilisation des terres à... On dit-tu Claire ou Claire?
On dit Claire, oui.
C-L-A-R-E. C'est dans le courrier de la Nouvelle-Écosse.
Oui, il y a plusieurs résidents de cette communauté francophone-là dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse qui sont en colère, on peut le dire comme ça. En 2018, le gouvernement provincial a fait passer une loi qui oblige les municipalités à adopter des nouveaux règlements, à mettre à jour des règlements municipaux. Puis Claire est une des dernières et est en pleine planification pour se conformer à ces nouveaux règlements-là, cette nouvelle loi-là. Puis les résidents sont vraiment mécontents de certaines propositions. Parmi les propositions, par exemple, on dit qu'il y a une limitation sur l'autosuffisance alimentaire selon le type de terrain. Par exemple, il y a un nombre maximum de poules que les résidents peuvent avoir selon leur type de terrain. Il y a aussi certaines limites sur les jardins. Par exemple, il faut que ce soit dans une serre ou délimité par une clôture à une certaine distance de la limite du terrain. Mais ce que disent les résidents, c'est que les terrains de cette région-là sont longs et étroits, ce qui complique leur façon de respecter ces règlements-là, surtout pour la distance avec les limites. Il y a aussi des restrictions sur l'espace de stationnement pour les véhicules récréatifs. Et là, on parle de tentes roulottes ou de gros VR. Les résidents soulignent qu'il n'y a pas beaucoup d'hôtels dans la région, puis une roulotte sur le terrain, mais ça permet, oui, d'accueillir de la famille des fois, mais aussi peut-être de servir comme un Airbnb, là, accueillir des touristes dans la région. La firme qui a présenté les propositions continue de mener des consultations publiques pour recueillir les commentaires, là, donc c'est pas terminé, mais c'est ça. Le texte que j'ai lu, on m'a dit qu'il y a déjà eu des réunions très mouvementées sur le sujet. Celle qui a produit un texte était un peu plus tranquille, disons.
Et dans le droit, paraît-il que le Festival franco-ontarien a eu chaud?
Oui, le Festival franco-ontarien commence, c'est sa 50e édition. Mais la semaine dernière, le Journal de droit a publié un texte qui disait que les organisateurs avaient reçu une fin de non-recevoir à leur demande de financement au gouvernement provincial. Donc, on avait demandé une subvention comme les années passées, puis on leur a dit non, on ne peut pas vous en donner cette année. Tout ça à quelques jours, quelques semaines du festival. Mais deux jours plus tard, finalement, après le texte du droit et après que la députée Lucille Collard est intervenue en chambre, le gouvernement a fait marche arrière et Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones, a annoncé qu'ils allaient donner 55 000 $ au festival finalement. C'était pas, oui, ça causait un problème, c'est pas leur seule source de financement, ils ont aussi des commanditaires privés, mais sans la subvention, les organisateurs du festival s'inquiétaient de la pérennité de l'événement, surtout de l'achalandage. Ça pourrait provoquer une baisse de l'achalandage, puis on se demandait si le gouvernement accordait vraiment une importance assez grande au Festival de Franco-Ontarien. Malgré la bonne nouvelle qu'ils vont finalement avoir l'argent, ça fait plusieurs années que la subvention diminue. On dit qu'elle est passée en 2021, c'était 235 000 $ qu'ils ont eu. En 2022, c'est baissé à 185 000. En 2023, c'est baissé à 60 000. Et l'année passée, cette année, 55 000.
Oh! Descente vertigineuse entre 235 et 55. Il y a toute une différence.
Exactement. Tout ça pour le plus grand rassemblement francophone annuel à l'extérieur du Québec. Oui. Comme je disais tantôt, la députée d'Ottawa-Vanier, Lucille Collard, avait posé la question en chambre pourquoi il avait refusé de les financer. Puis bon, le ministre du Tourisme avait dit on a donné beaucoup d'argent dans le passé, mais le programme est compétitif, donc on n'a pas pu leur en donner. Bon, finalement, ils en ont eu et la députée dit qu'elle est heureuse de voir que son intervention a porté fruit, mais elle regrette que les francophones doivent toujours se battre pour obtenir l'appui qu'ils devraient avoir.
On souhaite un bon 50e au Festival franco-ontarien. Allez-vous y aller?
Peut-être que oui, justement à Ottawa cette semaine, je regardais ça, je peux aller faire un tour.
Alors, bon festival. Dans On a le choix, on parle de Cornwall qui considère la formation universitaire.
Le conseil municipal a lancé un processus d'études de faisabilité l'année dernière pour voir si l'Université d'Ottawa, entre autres, pourrait offrir des cours dans la région de Cornwall. Le résultat est mitigé pour l'instant. Là, l'université semble soutenir que la ville pourrait avoir une petite université, mais qui a des défis à relever, comme le manque de logement, évidemment, comme partout ailleurs. Du côté de la francophonie, il y a un conseiller municipal, Fred Guinjo, qui soutient que les immigrants francophones ont en ce moment de la difficulté à se trouver un emploi. Il n'y en a pas assez d'emplois où ils pourraient parler seulement en français. Puis ils quittent parfois la ville, même si il y a un programme communauté francophone accueillante à Cornwall. Puis, selon lui, un établissement postsecondaire ouvrirait plus de portes à ces gens-là. Par contre, il y a un autre conseiller, lui, qui rappelle que c'est des métiers spécialisés qui sont en demande en ce moment et souvent mieux payés. On devrait peut-être plutôt se concentrer là-dessus que sur l'université.
Les Françaisquois, eux, auront accès à des cours universitaires en français.
Et on reste dans le thème. Une bonne annonce qui vient d'un accord signé entre l'Université d'Ottawa et la Cité universitaire francophone de l'Université de Regina. Il n'y aura pas de programme en français, du moins pour l'instant. C'est seulement des cours qui vont être offerts en français dans des programmes existants dans l'université. Notamment, on parle des domaines où la main-d'œuvre francophone est en forte demande, comme la gestion, la santé et l'éducation. On donne un exemple que l'annonce qui a eu lieu au début mai a déjà provoqué une hausse des demandes en sciences infirmières. Il y aurait eu 50 candidatures de plus que d'habitude. Puis, on espère agrandir l'offre de cours en français au fil du temps. Ça va être juste une première année cet automne. Puis avant cette initiative-là, les étudiants francophones de la Saskatchewan devaient aller soit en Alberta ou au Manitoba. Oui, il y en a qui allaient à l'Université d'Ottawa, mais justement, l'université qui est présente pour la signature souligne qu'elle ne souhaite pas appauvrir la communauté francophone de la Saskatchewan. Donc, c'est pour ça qu'ils se lancent dans cette aventure-là.
Et on demeure toujours dans le thème de l'éducation. Cette fois-ci, vous nous parlez d'une poursuite pour obtenir une école en français à Fort Smith.
C'est mené par René Rogers et Geneviève Côté, deux maires de Fort Smith, qui est une petite ville des territoires du Nord-Ouest, là, collée à la frontière de l'Alberta. Puis on poursuit le territoire, le gouvernement territorial, devant la Cour suprême des territoires du Nord-Ouest pour obtenir un programme scolaire en français dans la ville. Il n'y en a pas en ce moment. Là, il y a un petit peu d'immersion, mais ce n'est pas idéal. Elle s'appuie sur l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit l'éducation en langue pour la langue de la minorité où le nombre le justifie. Pour l'instant, le gouvernement du territoire permet au conseil scolaire francophone d'opérer seulement à Yellowknife et Hay River, les deux plus grosses villes du territoire. Fait que la poursuite des deux maires demande de mettre fin à cette règle-là. Elles veulent aussi avoir un petit programme partiel dès septembre, et ça pour 3 ans pour quelques élèves, pour à peu près 3 classes regroupées, et que dans 3 ans, il y a vraiment une école à part entière qui peut accueillir jusqu'à 50 élèves. On veut aussi, évidemment, gymnase et transport scolaire et toutes ces choses-là. Elles sont convaincues que ça va être facile d'atteindre ce chiffre-là parce qu'il y a apparemment une bonne communauté francophone à Fort Smith. Apparemment, le conseil discute avec le gouvernement depuis au moins 2 ans pour avoir une école francophone à Fort Smith. Puis au début, le gouvernement a de l'air ouvert, mais finit par changer d'idée à la dernière minute. Puis apparemment, c'est ce qui était arrivé encore ce printemps, et c'est pour ça que les parents ont décidé de poursuivre. Donc, le conseil scolaire et du côté des parents aimeraient ouvrir une école. Puis les parents réclament aussi une compensation financière pour décourager d'autres violations de l'article 23 de la Charte.
Une nouvelle tirée de l'Aquilon. Là-dessus, je vous dis un gros merci, Julien. On se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Des photos de bord de mer en mille morceaux défilent dans ma tête sur ma peau.
Il ne reste pas, une chanson de De Flore.
Oui, un duo franco-canadien qui fait dans la pop que je qualifierais de vaporeuse et irrésistible. Québec freine la dérive, c'est dans la presse d'aujourd'hui. Plateau de travail pour personnes handicapées, Caroline Touzin. Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, s'engage à freiner la dérive du modèle des plateaux de travail pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Dans une récente enquête de la presse, de nombreuses voix, dont la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, dénonçaient ce qu'elles considèrent comme de l'exploitation. Certaines parlent même d'esclavage. Les personnes handicapées qui sont employées sur les plateaux de travail ne sont pas payées ou reçoivent une rémunération inférieure au salaire minimum. Alors qu'elles sont censées y participer de façon temporaire pour acquérir des aptitudes de travail, et éventuellement intégrer le marché de l'emploi ordinaire, elles sont majoritairement devenues des employés permanents, déplorait d'ailleurs la Commission. Parfois, on les oublie là et ces personnes cessent leur intégration vers l'emploi, dit le ministre Lionel Carman en entrevue avec la presse. C'est sûr que si on vient mettre des gens qui sont prêts au travail de façon éternelle sur un plateau, ce n'est pas la bonne solution, concède le ministre Carman. Pour corriger le tir, le ministre enverra ces jours-ci une directive visant à limiter à 24 mois le séjour des personnes prêtes à l'emploi sur un plateau de travail et à un an la durée des stages non rémunérés qui mènent ensuite au marché du travail régulier. Ce sera à Santé Québec de s'assurer que cette directive est appliquée uniformément dans le réseau, précise-t-il. La presse donnait l'exemple de Jérôme qui fait le ménage dans une cafétéria de cégep depuis 13 ans et n'est payé que 5 $ par jour. Ou encore celui de Nicolas, dont l'employeur a refusé de l'embaucher après environ un an de stage dans une chaîne de restauration rapide, même s'il performait bien, selon son père. La gérante préférait continuer à bénéficier d'une main-d'œuvre gratuite fournie par l'école secondaire fréquentée par le jeune homme. « Il faut dénoncer ce genre d'histoire », lance le ministre Carman. « C'est inacceptable de la part des employeurs. » Mis au fait de ces dérives il y a un an lors d'une étude de crédit, le ministre a eu comme premier réflexe de vouloir abolir carrément ses plateaux. Mais on lui a fait valoir que des gens qui vivent avec une déficience modérée à sévère, qui seront toujours inaptes au marché ordinaire de l'emploi, doivent pouvoir continuer à les fréquenter. Vrai qu'ils ne sont pas rémunérés, mais ils ont droit à un revenu de base garanti s'ils sont inaptes au travail, fait valoir le ministre. Ce ne sont pas eux qui sont visés par la nouvelle directive. Mais pourquoi le ministre a-t-il mis un an à agir? Si on avait tiré la plogue d'un coup sec, ça aurait été catastrophique, explique-t-il. Il fallait qu'on s'arrime avec le ministère de l'Emploi pour s'assurer que la transition se fasse comme il faut. L'objectif est que les jeunes qui sortent des écoles spécialisées à 21 ans aient tous un plan d'intervention, qu'ils soient aptes ou non à l'emploi, dit le ministre. Ceux qui en ont la capacité pourront alors intégrer un plateau de travail pour 24 mois au maximum, puis obtenir un stage d'employabilité d'un an et finalement accéder au marché de l'emploi ordinaire. Avec cette trajectoire mieux définie, finis les stages éternels, espère le ministre. Le fameux 5 $ par jour comme ce que touche Jérôme depuis 13 ans et que plusieurs dénonçaient dans notre enquête était historiquement le montant accordé pour le transport, selon le ministre, mais un moratoire a été instauré en 2014. D'autres programmes existent pour les usagers et c'est vers ceux-ci qu'il faut diriger les familles, souligne-t-il. La nouvelle directive élimine d'ailleurs cette modique somme tant décriée. Les personnes inaptes ont accès depuis 2023 à un revenu de base garanti, souligne le ministre. Sauf que les familles de ces jeunes ne le savent pas toujours, dit-il. Par ailleurs, le transport adapté est censé être fourni pour se rendre sur les plateaux de travail, mais dans certaines régions comme la Gaspésie, on sait que c'est difficile, ajoute le ministre. Rappelons que les quatre principaux organismes représentant les personnes handicapées au Québec ont choisi de ne pas participer à la plus récente semaine québécoise des personnes handicapées pour protester contre les reculs répétés du gouvernement en matière de services publics, d'inclusion et de respect des personnes handicapées. Son gouvernement a été le premier à injecter de l'argent spécifiquement pour le répit des parents d'enfants handicapés de tous les âges, 50 millions sur 5 ans annoncés en 2023, répond le ministre Carman. Comme dans tous les dossiers de services sociaux, on part de loin, dit-il, blâmant le gouvernement libéral précédent d'avoir négligé ce secteur. Les chiens d'assistance à l'honneur, une campagne pour l'inclusion et le respect des droits. Sous le thème évocateur « Les chiens d'assistance, des alliés essentiels », la campagne de l'Office des personnes handicapées du Québec veut éveiller les consciences. Les chiens d'assistance ne sont pas de simples animaux de compagnie. Ils sont reconnus par les tribunaux québécois comme des moyens d'aide essentiels pour compenser un handicap. À ce titre, leur accès aux lieux publics est un droit fondamental. Or, ce droit est trop souvent bafoué, que ce soit par ignorance ou par refus de certaines politiques d'établissement. La campagne mise sur une diffusion multicanale, vidéo, audio, web, affiche pour faire passer un message clair. Refuser l'accès à un chien d'assistance, c'est refuser une personne handicapée elle-même. Il s'agit donc d'un enjeu de dignité, d'inclusion et de justice. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter le site québec.ca/chien-assistance ou visiter le site officiel de l'Office à ophq.gouv.qc.ca. Et aussi, je voulais vous parler d'Un toit, un droit, le collectif d'organismes pour la défense des droits des personnes en situation de handicap invite les médias à une manifestation visant à dénoncer le manque de logements accessibles et adaptés pour les personnes en situation de handicap. Une manifestation, donc, est prévue aujourd'hui même à compter de 12h30 et ce jusqu'à 14h. On vous donne rendez-vous au 750 boulevard Marcel-Lorrain. Alors, le collectif existe depuis 2020 et regroupe 12 organismes qui œuvrent dans une perspective intersectionnelle et avec une approche égalitaire pour l'inclusion pleine et entière des personnes en situation de handicap au sein de la société québécoise. C'est la fête des pères en fin de semaine. Alors, voici pour vous cette chanson.
Comment t'as fait, maman, pour savoir que papa, beau temps et mauvais temps, il ne partirait pas? Est-ce que t'en étais sûre ou si tu savais pas? Est-ce que les déchirures, ça se prévoit? Comment t'as fait, maman, pour trouver le bon gars? Tu l'as connu comment? Tu l'as aimé pourquoi? Est-ce qu'il y en avait juste un dans tout le présent siècle? Et il se trouve que c'est toi qui dors avec. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort c'est mon père. Maman, que dans ma vie à moi, avec autant d'amants, avec autant de choix, j'ai pas encore trouvé un homme comme lui, capable d'être ami, père et mari. Comment t'as fait, maman, pour lui ouvrir ton cœur, sans qu'il parte en courant avec ce que t'as de meilleur? Est-ce qu'il y a des mots magiques que t'as dit sans te rendre compte? Explique-moi donc ce qu'il faudrait que je raconte. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort c'est mon père. Et quand j'ai l'air de les aimer, les hommes changent de regard. Si j'ose m'attacher, ils se mettent à m'en vouloir. Si je parle d'avenir, ils sont déjà loin derrière. J'avais raison de le dire, le plus fort c'est mon père. Vas-tu me dire, maman, comment t'as pu savoir dès le commencement que c'était pas un trouillard, qu'il allait pas s'enfuir et qu'il allait tout faire pour que je puisse dire, le plus fort c'est mon père. Quel effet ça t'a fait quand tu l'as rencontré? Est-ce que ça te paraissait qu'il allait tant t'aimer? Les hommes, bien souvent, paraissent extraordinaires. Mais dis-toi bien, maman, que le plus fort, c'est mon père.
Linda Lemay, le plus fort, c'est mon père.
Non, c'est mon père le plus fort. Je pensais que vous alliez me relancer. Oui, gros
raison.
Succès, parce que c'est la fête des pères en fin de semaine. Alors, je salue tous les pères, tous les beaux-pères, tous les grands-pères, tous ceux et celles, tous ceux en général, hein, qui sont papas d'une certaine façon. On vous aime. Oui, la fête des pères, c'est le 15 juin. Gros week-end, ce sera les Franco, le Grand Prix, plein d'autres activités partout au Québec. Profitez-en, il fera beau. Ici Hélène Denis, on se retrouve lundi à 9h30.